Frères et sœurs, de même que dans l'aridité du désert, il y a la fraîcheur des oasis, ces oasis où il est possible de boire l'eau de la source, possible de se rafraîchir, possible de se plonger entièrement, autrement dit de se baptiser. De même, dans l'agitation de nos vies, qui sont parfois comme un désert où Dieu semble particulièrement absent, il y a la célébration du culte, ce que nous faisons actuellement, le culte où ensemble, nous nous approchons de la source pour nous désaltérer, pour nous rafraîchir, pour nous plonger entièrement dans ce bain purificateur qui nous permet de pouvoir reprendre chair, ressuscité à une vie extrêmement réjouissante. Le culte pour célébrer une vie réjouissante possible. Le culte pour instituer cette possibilité d'une vie heureuse. Même lorsque nous sommes encore tout à fait jeunes, petits, que le monde semble une immensité devant nous. Nous avons ce matin le plaisir d'accueillir Karine et Ludovic qui ont demandé le baptême pour leurs deux enfants. Et c'est une manière aussi d'instituer la possibilité d'un chemin qui, selon les termes de la Bible, mène vers la terre promise, le royaume de Dieu, la vie en plénitude. Voilà, chers amis, ce que nous allons essayer de vivre ce matin. Nous allons le vivre devant Dieu, de qui nous recevons la grâce et la paix. Et je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 118, la première strophe de ce psaume. Vous pourrez garder la page du psaume 118 qui ponctuera notre culte. Pour le moment, louons Dieu avec quelques mots inspirés d'un psaume. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours. Et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, et l'assemblée des croyants célèbre ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Alors, heureux. Heureux le peuple qui saura t'acclamer, parce que tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Gardez donc le psaume 118 ouvert, mais nous allons chanter le psaume 92 pour poursuivre notre louange. Juste un peu avant, au psaume 92, nous allons prendre la page de droite, la version A, pour y chanter les strophes 1, 2 et 4. Psaume 92, version A, psaume 92, strophes 1, 2 et 4. Prenons place et recueillons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, un jour peut-être avons-nous été baptisés. Et dans ce cas, pardonne-nous de l'oublier. Baptisés, nous l'aurons été en ton nom de Père. Mais t'avons-nous aimé de tout notre cœur ? À vrai dire, nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes fils et tes filles. Le plus souvent, nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls, sans tenir compte de la moindre de tes paroles. Baptisés, nous l'aurons été au nom de ton Fils. Mais aimons-nous vraiment notre prochain ? Ne cherchons-nous pas plutôt notre propre intérêt au lieu de servir ? Baptisés, nous l'aurons été au nom de l'Esprit. Mais avons-nous véritablement porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie ? Nous t'en prions, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Frères et sœurs, restons assis pour chanter au psaume 118, la strophe 2. Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, oracle de l'Éternel qui retentit telle une parole prophétique. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà, frères et sœurs, une réponse qui retentit en écho à notre prière d'humilité. Faisons bon accueil à cette parole de grâce par le chant de la troisième strophe du psaume 118. Levons-nous pour chanter cette troisième strophe. prenons place. Ainsi, Karine et Ludovic ont demandé que leurs enfants reçoivent le baptême, et pour nous, c'est une grande joie, car après tout, vous permettez à l'Église de pouvoir répondre à sa divine vocation. En effet, parmi toutes les paroles qui ont été adressées aux apôtres, il y a celle qui est consignée à la fin de l'Évangile selon Matthieu, ce moment où le ressuscité s'adresse à ses disciples pour en faire des apôtres et leur dit « Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » En réponse à cette divine vocation, nous sommes appelés à exprimer notre foi. Et c'est dans une certaine mesure ce que vous allez faire maintenant, chers parents, chers enfants, et je vous invite à me rejoindre ici avec les marraines que vous avez choisies pour entourer vos enfants. Et je vais tout d'abord laisser la parole à vos enfants, justement, pour exprimer quelque chose de la foi qui est en train de grandir en eux. C'est quand même assez prometteur, messieurs les professeurs de la faculté, n'est-ce pas ? Chers enfants, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes tels des arbres plantés dans un terreau fertile. Je veux parler de votre famille. Et dans une certaine mesure, vos parents qui vont exprimer leur foi vous disent quel est le contenu de cette terre dans laquelle vous êtes plantés qui va vous permettre de trouver tout ce dont vous avez besoin pour grandir, vous épanouir, et comme le disait le psaume, porter votre fruit chaque saison. Alors je laisse maintenant la parole à vos parents.
Nous croyons en l'Esprit Saint, qui communique la vérité et la vie aux hommes. Ainsi, nous ne croyons à la fatalité, ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort. Parce que nous croyons que le Christ libère les femmes et les hommes pour des décisions libres. Grâce à lui, notre vie a un sens pour le monde et l'univers. Nous devenons enfants de Dieu.
Alors, quel est le prénom que vous avez choisi pour votre fille ? Mila, que demandes-tu ?
Le baptême.
Mila, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mila, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frères et sœurs, voici Mila. Mila, voici ta famille spirituelle. Sache que tu es ici, chez toi. Voilà l'une des demeures de Dieu, voici l'une de tes maisons. Tu seras toujours la bienvenue, ta place y est à jamais marquée. Et bien entendu, puisque tes parents ont parlé de liberté, tu auras toute liberté d'occuper ou non cette place qui t'est réservée. Et à supposer que tu t'en éloignes, cette place sera toujours pour toi, Et cette communauté sera ainsi le témoin de l'amour indéfectible de Dieu en te disant que tu seras toujours la bienvenue. Et puis donc, ce sera notre joie que tu puisses toi aussi confesser ta foi après ce difficile moment de l'adolescence, plein de révolte, mais aussi de réforme, et puis que tu puisses donc t'inscrire à la faculté de théologie, si c'est ton choix. Quel est le prénom que vous avez choisi pour votre fils ?
Maxime.
Maxime, que demandes-tu ?
Le baptême.
Maxime, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, Maxime, cette parole est vraie. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, dit Dieu, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Frères et sœurs, voici Maxime. Maxime, voici ta famille spirituelle. Maxime, la même grâce t'est annoncée. Tu es ici, chez toi, par grâce seule, sans avoir encore montré aucun mérite particulier, alors même que tu n'as pas encore ton baccalauréat. C'est une façon pour toi de comprendre que tu es aimé d'une manière inconditionnelle. Et toutes ces personnes qui sont là, regarde bien leur visage, regarde bien leurs yeux scintillants, toutes ces personnes te regardent avec bienveillance et sont particulièrement heureuses d'être là pour ce jour si important dans toute notre vie. Car nous célébrons à tous les deux votre vie, votre venue à l'existence, votre venue au monde. C'est d'abord cela le baptême, ce plaisir, cette joie de pouvoir célébrer la vie qui ajoute de la vie à la vie. Pour toi aussi, Maxime, cette promesse s'accompagne d'une grande liberté. Tu auras la liberté de venir chaque dimanche ou plus régulièrement encore. Et à supposer que tu t'éloignes de cette communauté, eh bien ta place sera également marquée à jamais, et toutes ces personnes seront témoins de l'amour inconditionnel de Dieu pour toi, en disant que tu es toujours le bienvenu. Ça marche comme ça pour tous les deux ? Bien. Alors, ce que nous venons de vivre, ce baptême, n'est pas le point final de votre histoire, de votre vie intérieure, de votre vie spirituelle. Et je vais maintenant laisser la parole à vos parents, marraines, pour dire un peu quel est l'horizon qu'ils imaginent, qu'ils espèrent pour vous. Autrement dit, pour savoir un peu quelles vont être les prochaines étapes de votre vie.
Nos enfants sont pour nous une source de joie et d'espérance. Nous souhaitons que dans l'avenir, ils puissent rayonner de cette joie, de cette espérance auprès de ceux qu'ils croiseront. Nous leur ferons découvrir que leurs mains peuvent servir à transformer le monde. Et nous ferons en sorte que leurs yeux ne se ferment jamais sur la misère, ni qu'ils se réfugient dans l'indifférence.
Nous, parents, nous nous engageons à vous donner la confiance et l'estime de vous, vous protéger, vous encourager et vous soutenir dans les victoires comme dans les défaites. Nous vous promettons de vous aimer en toutes circonstances.
Nous vous demandons d'être pieux, d'être sincères envers Dieu, de suivre le droit chemin. Certains chemins sont tortueux, prenez toujours la décision qui vous est bonne. Et surtout, de garder cette connexion fraternelle qui vous lie, car votre amour vous rend plus fort.
Alors, un jour dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu une enveloppe avec de belles lettres de Mina et Maxime. Donc, je vais les lire. Celle de Maxime qui me disait « Tous les princes ont besoin d'une marraine. Veux-tu être la mienne ?» Emila, veux-tu être ma marraine? J'ai besoin d'une personne spéciale pour m'aider à apprendre et à m'épanouir. Je sais que tu es cette personne, car maman et papa me l'ont dit. Ils m'ont dit que tu m'aimeras et que tu seras toujours là pour moi. Que tu me ramasseras si je tombe, je te rendrai fière, je te le promets. Je sais aussi que nous nous amuserons ensemble et je t'aimerai toujours. J'espère que tu diras oui et que tu réaliseras mon souhait de devenir ma marraine. Cela m'avait très émue, c'était une évidence pour moi de leur dire oui. Cela sera un nouveau rôle que je prendrai très à cœur avec fierté. Vos parents vous ont donné la vie, je vous donnerai tout l'amour d'une marraine. Je serai présente pour vous accompagner dans la vie, vous protéger ainsi que vous écouter. Votre marraine très spéciale qui vous aime.
Alors, Maxime, n'oublie jamais de croire en toi, de cultiver la confiance et l'estime de soi. Sur ton chemin de vie, tu rencontreras des obstacles que tu sauras surmonter. Je serai présente pour te consoler, te conseiller et t'épauler. J'ai le cœur plein d'espoir pour toi, n'oublie pas de croire en ta destinée. La chance et le bonheur frapperont alors à ta porte pour t'émerveiller.
Mila, tu me fais l'honneur de devenir ta marraine. J'espère t'apporter le bon aiguillage. Encore petite de par ton âge, tu as déjà tout vu. Tu m'as demandé de te tenir la main quand tu en auras besoin. C'est avec bonheur que j'entreprendrai ce rôle de cœur, dans les bons et les moins bons moments, avec tous tes sentiments. Sois fière de qui tu es, moi je le suis déjà, car tu es empreinte de bonté et garde tout ça près de toi. Et à toi les clés de l'intention pour gravir tous les échelons qui te mèneront au bonheur. Ta marraine tout à l'heure.
Recueillons-nous dans la prière pour rendre grâce. Éternel, notre Dieu, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Mila et Maxime qui viennent de recevoir le signe de ta grâce inconditionnelle. Nous te prions pour eux, pour leur famille, pour leurs amis, pour ceux qui se rendront proches d'eux. Nous te remercions pour notre propre baptême, pour cette grâce qui nous rejoint et qui nous porte les uns vers les autres. Nous rendons grâce pour cet amour qui transcende notre existence. Amen. Je vais vous inviter à regagner votre place et nous allons nous lever pour chanter au cantique 568, les strophes 1 et 2 du cantique 568.
Thank you.
Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure parmi nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en notre cœur nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille l'humanité et l'invite à te suivre. Amen. La famille, d'une manière unanime, souhaitait une prédication qui porte sur l'arche de Noé et le déluge. J'ai donc retenu deux séquences au chapitre 6 et au chapitre 8 qui nous permettront de retrouver ou de découvrir cet épisode biblique. Au chapitre 6, je vous lis à partir du verset 9 les mots qui vont nous donner la nourriture de notre méditation. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. En hébreu, c'est Ramas. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Un peu plus loin, au chapitre 8, à partir du verset 6, après que le déluge a eu lieu, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Frères et sœurs, avant de reparcourir cet épisode, de le survoler peut-être comme le corbeau ou la colombe, nous verrons, nous restons assis pour chanter au psaume 118, la 4e strophe de ce psaume 118. Chers frères et sœurs, choisir le récit du déluge et de l'arche de Noé, un jour de baptême, cela pourrait vous faire penser qu'une fois de plus, vous avez le droit à une facétie du prédicateur, puisque ce texte finalement raconte l'histoire d'une famille qui fait tout pour éviter la moindre goutte. Ce serait un peu considérer que le baptême est à l'image des couches pamperses, même mouillées, ils sont secs. Cela nous fait penser qu'une fois de plus, les textes bibliques nous aident à ne pas avoir une vision trop simpliste de la vie, au sens où l'eau n'est pas simplement un élément positif, n'est pas simplement un élément de bénédiction, l'eau peut être également mortelle. Et il n'est pas inintéressant de constater dans nos textes bibliques qu'il n'y a jamais une vision uniforme de l'existence. Et d'ailleurs, dans ce texte biblique, nous voyons bien, nous entendons bien que plusieurs rédacteurs se sont mis à la tâche pour nous apporter cet enseignement. Nous l'observons parce que, à un moment donné, nous entendons qu'il suffit de prendre une paire de chaque animal pour que l'existence puisse se prolonger dans l'histoire. Et puis un peu plus loin, il s'agit de prendre plusieurs couples de chaque espèce. Plusieurs intentions dans un même texte biblique, a fortiori, plusieurs intentions dans l'ensemble de la Bible. C'est une manière de vous rendre attentifs, Mila et Maxime, au fait que la Bible nous rend attentifs, nous-mêmes, au fait que la vie est extrêmement compliquée, difficile, parfois inextricable, pour employer un mot un peu compliqué, à dessein. Il me semble que ce texte biblique est extrêmement profitable pour vous qui êtes encore de jeunes pousses, parce qu'il vous dit ce qu'est la religion. Avec ses grandeurs et peut-être ses vicissitudes, ses faiblesses, ses aspects moins sympathiques pour vous qui êtes encore bien jeunes. Je dirais que la religion, à travers ce texte biblique, montre qu'elle est ce qui nous permet de faire de la prévention. Ce texte biblique est là pour prévenir, aux deux sens du terme. Je vais y revenir. Prévenir du malheur, c'est faire de la prévention, mais aussi prévenir comme quelqu'un qui rend attentif, qui alerte, qui prévient. J'aimerais aborder ces deux points pour vous, Maxime et Mila, parce qu'il me semble qu'à votre âge, la religion peut être quelque chose de bien éloigné de nos préoccupations, quelque chose peut-être de sympathique, parce qu'un jour comme aujourd'hui est plutôt un jour festif, un jour joyeux. En plus, on s'occupe de vous. Mais il n'est pas impossible qu'à un autre dimanche, un autre mois, vous veniez au culte et que vous trouviez le propos du prédicateur bien rébarbatif, parce que bien éloigné de ce que vous vivez ou de ce que vous avez envie de vivre. Mais précisément, c'est peut-être la fonction première de la religion, nous préparer à des choses que nous ne soupçonnons pas encore, nous préparer à la vie telle qu'elle est et non pas telle qu'on la connaît actuellement. C'est le premier point que j'aimerais aborder pour vous. La religion sert à prévenir du malheur. Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Autrement dit, il était non seulement croyant, mais aussi pratiquant, ce qui est très honorable. Et sa religion va visiblement lui permettre d'échapper au malheur qui va toucher l'ensemble de l'humanité. Soyons bien clairs, la religion de Noé n'empêche pas qu'il y ait des malheurs qui s'abattent sur le monde, puisqu'il est bien précisé que la terre était corrompue et qu'elle était pleine de violence. La religion de Noé n'empêche pas qu'il soit lui-même menacé par cette violence et par les conséquences de cette violence, à savoir le déluge qui va arriver. Autrement dit, la religion ne nous empêche pas de vivre des difficultés. La religion ne nous fait pas vivre dans une bulle. L'arche de Noé n'est pas une bulle qui nous protège de tout. Cependant, la religion de Noé va le prévenir de telle manière qu'il puisse se préparer à ce qui va arriver et qu'il puisse ne pas succomber au déluge qui va tout emporter. La religion de Noé n'empêche pas le déluge, mais elle lui permet de faire face et de ne pas succomber au malheur. Et au fond, toute la difficulté quand on a votre âge, c'est de prendre conscience qu'il y a des épreuves dans la vie qui sont infiniment supérieures à ce qu'on peut imaginer, des problèmes bien supérieurs à tout ce que l'on trouve dans les cours d'école ou chez soi, des problèmes bien supérieurs aux problèmes que posent les parents, par exemple. Il y a beaucoup plus compliqué que les parents dans la vie, parfois. Levons un malentendu possible. Ce texte ne prétend pas que la religion permet d'échapper à tous les malheurs. Le personnage Job, dans la Bible, n'échappera pas aux malheurs. Et il est probable que toute personne dans la situation de Noé serait consternée par la mort de tant et de tant de personnes, dont probablement des proches. Ce texte biblique est comme une métaphore de l'homme face au danger, et plus précisément face au danger de la société. Il n'est pas question d'un texte qui nous dit comment éviter les virus et les bactéries. Ce n'est même pas un texte qui nous dit ce qu'il faut faire en cas de cataclysme ou d'épisode cévenol. Peut-être qu'en cas d'épisode cévenol, mettre un peu de bitume à l'extérieur de la maison peut être utile. Mais est-ce vraiment suffisant ? Ce texte dit que la religion permet de prévenir les conséquences catastrophiques de la violence sociale et de l'injustice. La religion sert à se préparer en cas de mauvais temps social, quand l'air de la cité devient irrespirable, quand l'ambiance est proprement mortelle. Il n'est pas dit que ce récit serve un jour. Ce texte n'est pas un scénario qui doit inéluctablement arriver. Peut-être que vous n'aurez jamais à faire face à une telle catastrophe. Et la vérité, c'est que je nous le souhaite à tous. J'aimerais autant que ce texte soit complètement inutile. Mais il est précieux de pouvoir se préparer au pire. C'est ce qui permet finalement d'avoir une vie bonne en toutes circonstances. Qui peut le plus, peut le moins. Bien des aspects de la religion ne nous seront pas nécessairement utiles. Au même titre que le baptême peut n'avoir aucune utilité d'ailleurs. Nous connaissons tous des gens très bien, excellents, qui n'ont jamais été baptisés. Le baptême n'est pas une nécessité absolue en soi. Le baptême est ce qui nous permet de prendre conscience de certains aspects de la vie que je vous ai rappelés tout à l'heure, le fait que vous êtes aimé de manière inconditionnelle, que votre place sur terre sera toujours marquée, que vous n'aurez pas besoin de batailler pour exister, que tous les propos désagréables que vous pourriez entendre en votre direction, vous n'avez pas besoin d'en prendre garde. Le baptême n'est pas un vaccin contre les moments difficiles. Il n'empêche pas les situations compliquées. Toutefois, il peut nous arriver de vivre des moments particulièrement douloureux. Et pendant ces moments-là, le baptême peut s'avérer redoutablement efficace. Il se pourrait qu'à un moment donné de votre vie, même si cela vous semble un peu impossible, vous ayez un peu de découragement qui vous gagne. Parce qu'un jour, il va falloir trouver un travail, peut-être trouver un logement. Il va falloir régler plein de difficultés. Et vous pourriez être découragé. Eh bien, parce que le baptême déclare que nous avons notre place inscrite au cœur même de la société, quelles que soient les circonstances, vous aurez matière à vous rappeler ce qui a été dit le jour de votre baptême et à prendre à nouveau courage. Peut-être des voisins auront-ils des propos détestables sur vous. Eh bien, cela sera sans prise sur vous, parce que vous vous rappellerez que ce jour de baptême a été l'occasion d'entendre que vous êtes quelqu'un avec une valeur inestimable, inoxydable. Et cela est vrai aussi au sein d'une communauté chrétienne. Nous sommes nombreux à avoir connu des moments où nous n'avons peut-être pas été bien accueillis, d'autres moments où on nous a regardés de travers, occultes, ou encore des fois où notre parole a été totalement ignorée, peut-être même déconsidérée, comme si nous n'étions qu'un petit insecte bourdonnant au milieu d'une assemblée chrétienne. Eh bien, dans ces cas, le baptême nous rappelle que nous sommes aimés de manière inconditionnelle par Dieu, en conséquence de quoi nous n'avons pas à nous justifier d'exister et d'être là. Ça, votre place est offerte par grâce seule. Ainsi, vous voyez, la religion, en instituant la grâce par les sacrements, le baptême est un sacrement, en célébrant cette grâce régulièrement par le culte, la religion permet à chaque croyant de bien intégrer qu'il est justifié par grâce seule, une expression technique que vous comprendrez mieux lorsque vous viendrez au catéchisme, publicité gratuite. qui vous sera particulièrement précieuse en cas de mauvais temps, quand vous aurez peut-être l'impression que vous ne valez pas grand-chose, quand vous aurez peut-être l'impression que vous n'avez plus grand-chose à faire ici-bas, que quoi que vous fassiez, de toute façon, ça ne va jamais, qu'on a toujours des reproches à vous faire, eh bien, vous pourrez redécouvrir cette valeur inestimable qui est au fond de vous. Dieu nous a jugés justes. C'est cela la justification par grâce seule. Nous sommes jugés justes. Et c'est cela que la foi nous permet d'exprimer. Cela signifie que nous sommes comme Noé. Et comme Noé, la religion nous prévient qu'il faut se préparer à affronter les difficultés de la vie. Si bien que lorsque l'hiver vient, eh bien, nous ne sommes pas totalement dépourvus. Bien au contraire. Cela se résume en une formule rappelée par Robert Redford. On a les exégètes qu'on peut. Dans le film « Jeu d'espion », il demande à sa secrétaire « Quand Noé a-t-il construit son arche ?» C'est presque une question de Trivial Pursuit. « Quand Noé a-t-il construit son arche ?» Alors évidemment, le professeur d'Ancien Testament essaierait de retrouver l'année, le mois et le jour, peut-être même l'heure, avec une analyse diachronique extrêmement précise. Mais la réponse est plus simple. C'est une réponse synchronique, et je m'en excuse. Noé a construit l'arche avant le déluge. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, la religion. C'est des fois frappé du coin du bon sens. Mais c'est une leçon à ne pas oublier. Et c'est en ce sens que la religion prévient. Elle nous aide à nous préparer. La religion, c'est une manière de prévenir du malheur, pour se préparer à pouvoir faire face et ne pas succomber. Je sais ce que bien des gens parmi vous pensent de notre religion protestante, qui est parfois un peu tristounette, un peu tragique, parce que nous ne sommes pas toujours à prêcher la joie, la grâce, la liberté, l'absence de pesanteur. Mais la vérité est qu'en abordant aussi la dimension tragique de l'existence, nous nous préparons au mauvais temps. Et du coup, lorsque l'hiver vient, nous pouvons continuer à danser, sans craindre pour notre vie, pas trop. Le deuxième sens de la prévention dont parle ce texte biblique, c'est le fait de pouvoir avertir, prévenir comme avertir. Elle prévient comme on informe une personne. D'une part, Noé est prévenu que cette situation sociale impossible va mal finir. D'autre part, il est prévenu que la terre est enfin sèche et qu'il va être possible de sortir de l'arche dans laquelle il s'est protégé avec sa famille et des représentants de chaque espèce animale pour éviter l'extinction du monde. Il y aurait bien des explications et des interprétations à donner sur ce qu'est l'arche. De quoi l'arche est-elle la métaphore? Quelles sont les arches que nous pouvons construire aujourd'hui? Ce qui est important, c'est de se dire qu'il ne faudrait pas suivre la recette de l'arche au pied de la lettre, mais inventer les arches dont nous avons besoin de nos jours. Ce que j'aimerais, pour une fois, c'est porter l'attention sur la colombe qui fait, elle aussi, quelques allers-retours, comme le corbeau. Le corbeau qui est peut-être la métaphore de ce Saint-Esprit qui, au début du livre de la Genèse, plane à la surface des eaux et qui va permettre l'apparition de la terre sèche. J'aimerais que nous portions l'attention sur la colombe qui fait des allers-retours, qui revient une fois avec une feuille d'olivier arrachée et puis qui ne revient plus. La colombe ne fait pas grand-chose, à vrai dire. Elle ne fait pas grand-chose à part vivre sa vie, ce qui est déjà bien, me direz-vous. Et dès lors que la terre est à nouveau vivable, elle va vivre de son côté, loin de l'arche familiale, comme les enfants qui, devenus adultes, ont découvert que le monde était vivable en dehors du cocon familial. Nous ne reviendrons qu'une fois avec, si ce n'est une feuille d'olivier, un peu de linge à nettoyer. Et puis, nous ne reviendrons plus jamais. Jamais. Mais les enfants ne sont pas la colombe du récit. La colombe est comme un signe que Noé observe et qu'il interprète pour connaître l'état du monde. Tant que la colombe revient, c'est qu'elle n'a pas trouvé où se poser. Quand elle revient avec une feuille d'olivier, c'est que l'eau a suffisamment baissé pour que la nature ait pu se développer à nouveau. Et dès lors que la colombe ne revient plus, c'est que la terre est à nouveau habitable, qu'il y a de quoi vivre et se nourrir. Eh bien, la religion, c'est cela aussi. C'est devenir capable d'interpréter les signes du monde, pour pouvoir se repérer dans la vie, pour savoir à quel moment il vaut mieux se réfugier dans l'arche et à quel moment il est possible à nouveau de prendre un peu le large et de suivre son chemin. En interprétant le signe de la colombe, Noé est en mesure de pouvoir avertir les siens que le périple touche à sa fin. Il n'est pas question de voir le bout du tunnel ici, mais la fin du déluge, et les deux métaphores disent la même chose. La suite de l'histoire donnera la parole à Dieu qui invitera Noé et sa famille à sortir de l'arche. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour tout. La religion est donc là pour prévenir, pour avertir, comme une vigie qui guette l'apparition d'un bout de terre et ainsi pour avertir l'équipage de son navire. La religion est donc là pour prévenir, pour avertir, parce qu'elle rend capable d'interpréter les signes et de donner du sens à ce qui arrive. Et ça, je sais que ce n'est pas aussi toujours très glamour, interpréter les signes. On a parfois l'impression que le protestantisme et le christianisme, en fait, est une religion d'intellectuels et qu'il faut toujours donner du sens à tout ce que l'on voit. Et c'est heureux. Tout à l'heure, je vous parlais de l'eau, qui peut avoir plusieurs sens. Un sens extrêmement joyeux et parfois un sens extrêmement dangereux. Si nous ne donnons pas du sens à ce que nous voyons, nous risquons de nous tromper et de faire un mauvais usage de ce que nous avons à notre disposition. Il y a une certaine ambiguïté dans ce que nous observons. Ce que nous observons est parfois en contradiction avec les sciences, par exemple. Et qui a raison ? Est-ce la science ou est-ce ce que nous observons ? Vous voyez, par exemple, si du haut de la chaire, je faisais tomber une plume et la Bible, vous me diriez, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Ce qui est en fait faux. Tout tombe à la même vitesse. Il faut se méfier de ce que nous observons. Nos observations ne sont pas toujours conformes au réel. C'est pour cela qu'il faut interpréter. C'est compliqué, mais c'est extrêmement utile pour ne pas se faire avoir dans la vie. Eh bien, la Bible nous aide à identifier et à donner du sens à ce que nous voyons pour ne pas tout prendre au pied de la lettre. La Bible nous aide à identifier ce qui relève de la grâce, ce qui relève de la logique du pardon, ce qui va dans le sens de la rédemption, ce qui favorise la reconnaissance, ce qui est gratitude, ce qui transcende notre condition vers une plus grande liberté, pour que nous soyons en mesure de prévenir nos contemporains des opportunités à saisir qui se présentent. Et la Bible nous aide aussi à repérer les phénomènes de violence collective, les phénomènes de bouc émissaire, pour que nous sachions aussi les éviter ou ne pas les reproduire. Les chrétiens puisent dans les textes bibliques, dans les histoires qui sont racontées, tout ce qui leur est nécessaire pour mieux décrypter le monde, pour mieux le comprendre. Et aujourd'hui, pour vous, le monde est parfois un peu compliqué, bizarre, étonnant. Les textes bibliques font partie de ce qui vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre ce qu'il y a à vivre, à mieux comprendre aussi ce qu'il s'agit d'éviter, à mieux comprendre ce qui renforcera votre vie, ce qui lui donnera beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de bonheur. La religion est là pour former des éclaireurs du sens qui ouvrent des voies nouvelles en direction d'une société beaucoup plus vivable. La religion permet donc de se préparer à affronter les éléments déchaînés afin de ne pas être submergé. La religion permet aussi d'annoncer les issues disponibles, les temps propices, les lieux favorables. La religion prévient contre ce qui menace l'existence en donnant les moyens de s'équiper contre ce qui s'oppose à l'humanité du monde. Et la religion prévient en révélant quels sont les points d'appui qui nous permettront de continuer notre chemin. C'est un peu comme une carte d'état-major, finalement. Ainsi, parce que nous sommes prévenus, nous pouvons prévenir. Amen. Dans notre recueil de chants au cantique 562, je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 3 du cantique 562. Place. Dans les informations à partager, il y a tout d'abord le rappel des assemblées générales qui vont avoir lieu. Demain, c'est l'Assemblée générale de l'entraide protestante, ici même à 17h. L'Assemblée générale de notre Église aura lieu le dimanche 20 juin. Ici même, après le culte qui sera suivi d'un repas tiré des sacs, ici même, il y a à votre disposition à la sortie du temple tous les documents liés à l'Assemblée générale si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir les imprimer chez vous. rapports d'activité, comptes et les décisions à voter. Demain, il y a le groupe des étudiants et des jeunes actifs qui se réunira. Il se réunira encore par Internet, par lien Zoom. Si vous souhaitez connaître ce lien, vous vous adressez à moi et je pourrai vous en faire part. Il y a aussi à votre disposition une petite feuille magique qui se tient là, à la sortie du temple. C'est un document pour faire des virements périodiques automatiques. Vous voyez, il faut que la vie chrétienne soit simple, que vous ne soyez pas toujours obsédé par combien dois-je donner à l'Église, quand est-ce que je vais donner, est-ce que j'ai donné, etc. Dites à votre banquier de faire un virement chaque mois ou chaque trimestre en remplissant ce petit formulaire et vous serez tranquille. Et l'année suivante, vous recevrez de la part du trésorier général un reçu fiscal qui, en plus, vous permettra d'avoir une remise sur votre impôt sur le revenu pour autant que vous soyez imposable. Donc, n'hésitez pas à prendre ce document, à le remplir et à le communiquer à votre banquier. Ce sera tellement plus simple pour vous. Comme ce n'est pas encore fait pour tout le monde, c'est le moment de l'offrande. Eh bien, que ce soit l'occasion de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour assurer ses missions. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous avons entendu à quel point nous sommes aimés. Alors c'est au nom de cet amour que nous voulons venir vers toi et déposer devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes. Notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Notre péché, afin que tu le pardonnes. Nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies. Toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Nous faisons mention de toi à tous ceux qui vivent auprès de nous, pour que nous sachions incarner cette grâce auprès des nôtres à la maison, auprès des exclus et des malades à l'extérieur. Que nous puissions être prévoyants, prévenants. Que nous sachions être prophètes pour éclairer les pensées et les actes de ceux qui, dans notre pays, dans notre région, dans notre cité, sont responsables du droit, de la justice et de la paix. C'est ainsi que se lèvera le jour pour l'humanité entière. Et pour bien prendre conscience de ce que nous sommes appelés à être et à vivre, nous reprenons à notre compte les mots que Jésus a enseignés à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Frères et sœurs, levons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. La grâce de notre Seigneur est avec nous tous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Amen.